Bye.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoboudadi.
Bonjour à tous.
Thomas Wiesel.
Bonjour.
Daniel Morin.
Ah, bravo,
Albert Algou. Tanguy Pastureau sera tout à l'heure. Ah, ben, il sera là, midi 10, c'est notre invité. Et mademoiselle Judith Mac. Soyez la bienvenue, Judith. Vous êtes au théâtre, vous êtes de retour même, j'ai envie de dire, avec cette pièce L'Amante anglaise, L'Amante anglaise, puisque tout vient aussi d'une...
Pourquoi vous dites retour? J'ai jamais quitté le théâtre.
Non, vous l'aviez déjà joué, cette
pièce. Ah oui, d'accord, mais c'est pas un retour au théâtre.
Non, c'est cette pièce qui revient, pardon, je me suis mal exprimé.
Oui, parfaitement.
Qu'est-ce qu'il est maladroit, quand même.
Oh, mais non,
c'est vraiment
vous adore, il vous adore, en plus, alors là.
C'est oui, bah, plus maintenant, mais tu vois. Tu vois, je l'aimais bien jusqu'à la 11h04. À 11h05, déjà, j'ai un petit
froid. Ne faites pas un coup pareil.
Judith, vous reprenez donc ce personnage dans cette pièce de Marguerite Duras, mise en scène par Thierry Harcourt, ça se passe au Lucernaire, et ce jusqu'au mois de novembre. Ça part d'un fait divers.
Avec Jacques Frantz.
Authentique, oui.
Et Jean-Claude Le Guay. Non, mais je parle d'eux parce que c'est un tel bonheur de les retrouver tous les soirs. Ils sont tellement formidables et tellement amicaux.
Ah oui, puis ils en imposent aussi sur scène. La force de la voix, le physique, oui, absolument. Mais donc, parlez-nous de ce fait divers. Tout est vrai, c'est-à-dire qu'une demoiselle a... Le point de départ
c'est
est vrai.
C'est inspiré d'un fait divers, en réalité.
Une demoiselle a commis un assassinat.
Oui.
Et a découpé sa cousine, ou je sais
pas. Sa cousine.
Sa cousine, oui. L'a découpée et l'a disséminée comme ça dans différents trains,
oui.
Qui se sont retrouvés éparpillés. Enfin, les bouts de corps sont.
Oui.
Bonjour, si vous êtes en train de nous écouter, en train de préparer le repas, et de découper le gigot, j'en sais rien.
C'est à peu près comme une invitation en voyage.
c'est ça. Et on a retrouvé donc, à Lille, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, comme ça, des bouts d'une personne sans jamais retrouver la tête, et l'enquête a fait que a découvert que tous ces trains étaient passés par un même point, qui là où se trouve votre personnage qui a confessé être l'auteur du crime.
Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Où j'ai mis la tête?
Pas du tout. C'est pas ce que je veux savoir. Ça, c'est ce fait divers est réel.
Je m'en fous. Moi, je suis au théâtre, le fait divers.
Le point de départ est totalement dingue.
Le point de départ, c'est Marguerite Duras que ça intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir à faire cette personne qui a tué et
qui se retrouve interrogée. Après avoir déjà répondu à moult questions, c'est ce rapport de l'interrogatoire, en tout cas cette communication-là, qui est importante pour elle.
Ben oui, et puis elle dit, tout le monde veut savoir où elle a mis la tête, elle dit je sais pas. D'ailleurs, elle dit à la fin, si je suis folle, pourquoi vous me demandez où j'ai mis la tête? Peut-être que je sais pas où je l'ai mise, que j'ai oublié l'endroit, parce que l'autre la considère un peu comme folle. Elle n'est pas folle, mais... je pense que quand on n'est pas un tout petit peu dérangé, on ne commet pas forcément un assassinat.
C'est un bon point de départ.
Que quand on a commis un assassinat, on peut être encore un petit peu plus dérangé. Mais les raisons de l'assassinat, je pense que c'est surtout son extrême solitude et le fait que cette cousine qu'elle a assassinée était sourde et muette et restée à parler avec une grosse vache sourde et muette qu'on finit par ne plus pouvoir supporter, je pense que dans un moment d'humeur...
Là, vous revenez dans le personnage quand vous vous énervez comme ça, oui. En parlant d'une grosse vache sourde
et
muette. Rassurez-moi.
J'ai une lueur d'inquiétude dans le regard de Nagui.
Oui,
en même temps, votre personnage explique que ça aurait pu... C'est le fait d'avoir quelqu'un à ses côtés qui mange beaucoup, qui dort bien, qui l'agace. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre.
C'est-à-dire, oui, elle dit...
Oui, la phrase est dite, même.
Je supporte pas... Elle dit, ça a un rapport avec mon caractère, je supporte pas les gens qui mangent beaucoup et qui dorment bien. Je pense qu'elle, sans être anorexique, elle doit pas manger tellement, qu'elle dort pas beaucoup, elle doit être insomniaque. Et puis alors, ce gros truc de cousine, là, qui bouffe et qui dort, ça l'agace.
C'est vrai, c'est agaçant.
D'accord, ce gros truc de cousine, ouais. on est d'accord.
Mais vous c'est êtes la totalement. Du texte, hein.
Mais vous avez, oui, ce que j'allais dire, oui. Vous avez une quel regard sur le personnage que vous incarnez?
Vous avez sentiment de jouer. Je ne regarde pas puisque je le joue.
Non, mais d'accord, mais vous avez sentiment de jouer une folle, le sentiment de jouer une méchante.
Non,
de
quand jouer... je suis sur scène, je n'ai jamais le senti. J'ai toujours le sentiment d'être moi-même.
Alors, c'est ce qui m'inquiète. On est d'accord, voilà. Ça, c'est... Appelez la sécurité quand même. On ne sait jamais ce qui peut se passer.
Non. Mais évidemment que quand je sors de scène, bon bah j'oublie ce que je viens de raconter. Mais c'est vrai que quel que soit le rôle. Moi, je ne me raconte pas des trucs avant d'entrer en scène. Je ne me dis pas, il faut que je me concentre dans quel état je suis. Non, il y a les mots qui me portent. Les mots, ce n'est pas innocent. Donc, je dis les mots.
Et jouer du Marguerite Duras, c'est agréable?
Écoutez, je n'ai jamais
son
joué.
Son écriture vous convient, en tout cas?
Oui, moi, quand je joue, tout me convient.
Non, mais il doit y avoir des textes plus ou moins faciles à jouer, à interpréter, à retenir, que sais-je?
Écoutez, je n'ai jamais été malheureuse en jouant. D'abord parce que j'ai toujours joué avec des gens qui m'aimaient et que j'aimais. Et que ça, pour moi, dans la vie, c'est la chose la plus importante. Je ne supporterais pas de vivre sans affection.
Sans l'amour ou l'affection des autres.
Oui, absolument.
La vie de troupe, déjà, vous plaît. Donc, vous retrouvez.
Enfin,
sur
de
scène.
Troupe, c'est une petite troupe. Hein, parce que mes deux camarades, là.
Jacques France, donc,
c'est
et Jean-Claude Leguet.
Par exemple, au théâtre, moi, ce que j'aime, c'est que les filles du restaurant sont absolument adorables.
Oui, ça compte.
Mais c'est très important. Oui. Moi, si elles me voient arriver, si je suis fatiguée, elles me donnent. Enfin, je veux dire, l'ambiance du théâtre est extrêmement sympathique.
Lucernaire, d'accord.
Donc. Moi, je peux vivre que comme ça, et si j'ai pas ça, je suis très malheureuse.
L'amante anglaise de Marguerite Duras, avec Judith Magre, Jacques France et Jean-Claude Leguet, c'est jusqu'à mi-novembre au Lucernaire. J'espère, Père Albert, que vous avez compris pourquoi nous avions invité Judith Magre.
Mais c'est c'est à 19h.
À 19h.
C'est à 19h et le dimanche à 16h.
À 16h le dimanche.
Mon cher Nanguet.
Oui, mon père.
Mais de même que l'enjeu de l'amante anglaise, la pièce dont il est question aujourd'hui, est la bonne question à poser à Claire Lane, le personnage incarné par Judith Magre. Bonjour, Judith.
Bonjour.
Je constate qu'une fois de plus, vous non plus, vous ne m'avez pas posé la bonne question, Nanguet. Alors, quelle aurait été la bonne question à me poser? Eh bien, je vais vous le dire. C'est pourquoi n'avons-nous pas reçu Judith Magre plus souvent? Simplement parce que vous ne vouliez pas qu'elle vînt, Nagui.
Ah bon?
Oui, et pourquoi ne vouliez-vous pas qu'elle vînt? Parce que je me le rappelle fort bien, j'étais là, à GNB, notre rédac-chef qui insistait, au risque de se prendre un grand coup de genou dans les parties, qu'il insistait pour inviter Judith Magre, vous avez rétorqué « Ah non, cette histoire d'une bonne femme qui trucide sa cousine sourdingue et muette, qui la découpe en morceaux, qui l'éparpille façon puzzle et qui ne sait même plus ce qu'elle a fait de la tête, primo, ça me fout le somme grave, deuxio, j'irai jamais voir un truc aussi gore au théâtre, d'ailleurs, je vais jamais au théâtre. » Finalement, vous avez cédé, car force vous fut de reconnaître que Judith est une grande comédienne. Mais pour une fois, Nanguy, je confesse avoir partagé vos réticences et je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard. Cette histoire de tête coupée m'a rappelé celle de Holoferne dans un célèbre épisode de la Bible. Et qui lui coupe la tête à Holoferne? Eh bien, c'est Judith. Alors, allez voir sur Google les images.
Google.
Voilà, allez-y voir les images, vous verrez le tableau du Caravage notamment qui montre Judith en train de couper la tête. En toute Judith, il y a donc une diabolique coupeuse de tête qui sommeille. Et comme je crains, Judith, que le démon de la décapitation t'habite, je vais devoir t'exorciser. Te rogamus immundus spiritus decapitus diabolicus. Quick, quick, va des rétros, Judith, et malgré capi.
Ta mère décapite en enfer.
Je te conjure, immonde raccourcisseur de cafetière, sors du corps de Judith. Et si tu ne veux pas en sortir, entre dans le mien. Viens. Oui,
non,
oui, c'est
non,
ça,
non,
comme
non,
ça.
Non,
come into me.
Non.
Take me. Prends-moi. Venge-toi. Voilà. Vous m'avez épuisé, Judith.
Oui, c'est ça.
Mais ça a marché. Bonne émission.
Merci.
Vous avez bien amusé.
La bande originale. Nagui. Sur France Inter.
N'oubliez pas de moi.
Vous êtes déjà venu, ne l'écoutez
mais
pas.
Mais je sais, mais enfin quand même, peut-être que vous avez beaucoup résisté.
Mais pas du tout.
Pour faire une première fois, même une deuxième. Mais
j'étais là.
Non. Vous les pendez tout au premier degré de ce qu'il vient de dire, mon Dieu.
Quelle horreur.
Quelle horreur.
Je confesse avoir menti, il vous adore.
On vous avait adoré dans Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt. On était venu vous voir sur scène, on vous avait adoré.
Et là aussi, on est venu pour l'amante anglaise. Oui. Donc ce jeu de mots entre l'amante, l'apostrophe, amante anglaise et la menthe poivrée, celle qui est la plante, puisqu'elle est dans le jardin.
C'est ma plante préférée. Voilà. Je dis, elle pousse dans des îles où il y a des moutons. Et j'en mange quelquefois et j'adore ça.
Le parti pris donc de cette pièce de Marguerite Duras. Marguerite Duras que vous connaissez, que vous avez fréquentée.
Non, enfin, quand on était très jeune... Ouais. Et qu'elle était très belle. Moi, je n'étais pas tout à fait moche à l'époque. On buvait des coups au Harris Bar.
Oh,
et bah oui, moi, c'était un endroit que je fréquentais beaucoup à cette époque-là. Et...
Mais elle en buvait plus que vous.
Je ne sais pas, il y a un ordinateur qui parle dans le studio. Là.
Et donc, mais après, je ne l'ai jamais vue. Et je n'ai...
C'est très bizarre. On capte une autre radio. Si éventuellement quelqu'un peut s'en occuper, vous êtes gentil. Ou alors on l'écoute carrément la radio et on s'arrête de parler.
Moi j'ai Radio Courtoisie dans l'oreillette.
Dans le studio, on capte une radio. Voilà, continue.
Donc qu'est-ce que je racontais? Oui, Marguerite Duras. Ouais. Bon, finalement, je crois.
Que...
Non, mais après, je crois que j'ai jamais vu une de ses pièces. Je crois que j'ai vu ses films.
Oui.
J'ai fréquenté Carlos D'Alessio, qui était un grand ami, qui a fait toute la musique de ses films. C'est lui qui avait composé India Song, oui, etc. Mais je n'avais plus de rapport avec Marguerite Duras, qui d'ailleurs était devenue, je crois, assez emmerdante.
Et est-ce que vous aviez déjà vu la menthe anglaise?
Non.
Au sens
non.
où elle a été montée par Claude Régis, je crois, une première fois.
Oui.
Et Marguerite Duras n'était pas du tout contente de la version qui avait été proposée.
Ah bon?
Ouais. Et elle a retravaillé le texte ensuite.
Ah bon?
Ouais.
Moi, je ne savais pas. Moi, je ne me penche pas sur le passé des pièces. On me propose un truc. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. Mais justement, je ne sais pas si je l'avais vue jouer par d'autres que moi. Si j'aurais accepté de la jouer.
Ah, c'est vrai.
Enfin, j'en sais rien.
En tout cas, ce sont de grandes comédiennes. Il y a vous, je vais dans le sens inverse.
Il y a Suzanne Flon.
Suzanne Flon et Madeleine Renaud. Donc, ce sont des grandes comédiennes.
Ah, oui, mais je suis contente de ne pas les avoir vues parce que ça m'aurait impressionné. J'aurais certainement pas joué.
Ça aurait changé votre manière de jouer
que non, de voir déjà le rôle. Non, j'aurais pas joué du tout.
Ah oui?
Non.
Ça veut dire que dans le passé, avec votre... Parce que quand on voit la liste de toutes les pièces que vous avez jouées, c'est colossal.
Ouais.
À chaque fois, c'est soit des créations, soit vous n'avez pas vu la version qui a précédé.
Ben non, je n'ai pas vu. Remarquez, quand je joue du Corneille, c'est normal que...
Oui, on en ait vu un peu.
Que d'autres l'aient fait avant, c'est ça. C'est un peu normal. La pièce se passe en deux mouvements, en deux temps. D'abord, le personnage, l'interrogateur, joué par Jean-Claude Le Guay, interroge Jacques France, puis vous interroge vous. Dans ce... Quand on arrive qu'au bout, je ne me rends pas compte, d'une vingtaine de minutes ou une demi-heure de spectacle... Est-ce qu'on assiste à la première? Est-ce qu'on se concentre? Est-ce qu'on prend la température, l'humeur du public?
Pas du tout.
Qu'est-ce que vous faites pendant cette demi-heure-là?
Voilà, cette demi-heure, je m'habille. Souvent, je regarde mon texte, me fais une petite...
Mais vous entendez ce qui se passe sur le
pas
plateau?
Pas du tout.
Pas du tout?
Non, puis ça ne m'intéresse pas du tout. Non, mais attendez, ça m'intéresse beaucoup.
Dans l'absolu?
Dans l'absolu.
Mais pas au quotidien.
Je veux dire ce qui se raconte... pendant que j'attends d'entrer en scène. Non, ça ne me concerne pas.
Non, je pensais ressentir un public, parce qu'on entend souvent les comédiens, lorsqu'ils viennent nous parler d'une pièce de théâtre, dire il y a des bons et des mauvais publics.
Oui,
aussi.
Ça c'est vrai, mais moi je le ressens quand j'entre en scène, mais ce n'est pas quand les autres sont en scène que je le ressens.
D'accord.
D'abord, ils n'ont pas la même sensibilité que moi.
N'est-ce pas?
Et donc, non, il n'y a que moi qui peux tâter la température.
Et ça change quoi dans votre jeu?
Je sais pas.
Est-ce que vous allez à la pêche au public et aux chalands si vous les trouvez un tout petit peu réticents? Vous en faites un peu plus pour capter leur attention? Ou au contraire, il y a une espèce de lâcher prise?
Non, je fais ce que je peux.
Mais vous le faites bien, en tout cas. Vous le faites bien.
Non, mais c'est vrai, je fais pas plus comme si, moi, non. Je fais ce que je peux. Puis s'ils m'aiment bien, tant mieux. Si je les intéresse, tant mieux. Quelquefois, à la sortie, on me dit des choses extrêmement aimables qui me font plaisir. Puis il y a des gens aussi qui n'aiment pas du tout. Bon, bah, ils ont le droit de me le dire aussi.
Non, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas la pièce, en tout cas, on ne peut pas...
Ne pas m'aimer
ne, exactement.
Écoutez, vous êtes trop aimable.
Sincèrement. Le personnage de cette dame assassine et découpeuse de corps et de cousine est pour vous agréable à jouer.
C'est-à-dire, oui.
Jouer une meurtrière, c'est agréable.
Mais oui, parce que c'est un truc qui m'arrivera jamais. Enfin, jusqu'à nouvel ordre.
Vous avez encore le temps.
Non, mais c'est pas mal de... Et c'est vrai que quand je dis qu'elle l'a découpé en morceaux, qu'elle l'a acheté dans les trains, en fait, le problème, c'était de porter un corps de 80 kilos dans un train, de couper la tête, de savoir quoi en faire, après de savoir quoi faire de la tête. Et elle dit, bah, il y avait du sang dans la cave. Bah oui, bah, comment éviter, vous et moi, qu'il y ait du sang dans la cave quand on découpe quelqu'un en morceaux? Elle raconte des tas de trucs. Bah, c'est peut-être pas très appétissant quand je le raconte là, mais moi, ça me plaît beaucoup de raconter ça.
Et en fait, tout vient de ce besoin de communiquer. Elle a envie qu'on l'écoute, qu'on lui parle.
Je crois. Elle se sentait, je crois, très, très, très seule dans cette maison. Quand elle était avec ce mari, que finalement, elle vivait avec le souvenir d'un grand amour qu'elle avait eu avant. Elle est avec ce mari qu'elle n'aime pas spécialement et avec qui elle ne doit pas avoir des rapports extrêmement chauds. Et il y a la grosse cousine, la muette, son rendez-vous.
Mais arrêtez
de parler
d'elle comme ça.
Mais si, parce que
appelez-la la victime à ce moment-là.
Alors, attendons-nous, je n'ai rien.
Contre les gros, ni contre les sourds,
ni contre les muettes.
Très bien. Mais celle-là. Vous avez bien fait de venir à la radio pour dire que vous n'avez rien contre les sourds.
Mais alors, c'est étonnant parce que c'est le crime, en fait, l'interrogateur dans la pièce cherche à déterminer les raisons du crime.
Oui, et quand je vous entends.
Et quand je vous entends, en fait, là, j'ai la sensation de comprendre les raisons du crime, ce que je n'avais pas compris au préalable.
Oui, mais moi, je vous raconte un truc qui me vient à l'esprit, comme ça. C'est toujours un peu compliqué.
C'est le sentiment que j'ai eu aussi dans la salle. Et elle crie d'ailleurs, elle parle et moi.
Oui, elle dit, écoutez-moi, je vous en supplie.
Voilà, elle est à deux doigts de tout avouer.
Et elle dit, quand elle était seule dans cette maison, comme l'hiver, elle ne peut pas aller dans le jardin, qu'elle est toute seule dans la maison. Elle dit, la maison était silencieuse le soir, surtout après la sortie des écoles. Elle s'emmerdait à mort, c'était épouvantable. Alors je crois qu'on arrive à un degré d'exaspération. Ça risque pas de m'arriver parce que je vais pas me retrouver.
Mais on peut trouver quelques justifications. C'est pas des justifications, des explications en tout cas de certains comportements pour des personnes qui ont des vies d'une monotonie sinistre et qui mettent un peu de piment dans leur vie
en tuant.
En faisant un acte.
Si vous vous ennuyez à la maison, voilà un conseil.
Vous aussi, découpez votre cousine si elle est grosse.
Initialement, l'histoire en fait, c'est qu'elle le vrai fait divers.
Si elle est grosse.
Ça donne plus de quoi ?
Plus de mal.
Ah oui.
Il y en a plus à découper.
Ah oui, il y en a plus à découper.
Le vrai fait divers, en fait, c'est qu'elle tue son mari.
Je suis végétarien, donc je ne me rends pas compte. Hein.
Moi aussi, je suis végétarien.
Le vrai fait divers, c'est qu'elle tue, en fait, son mari. Dans la véritable histoire, le fait divers qui a eu lieu, je crois, c'était en 49.
Mais ça, je m'en fous.
D'accord. Oui, mais moi non plus. Moi aussi, un peu, d'une certaine façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est
ça
que.
Ça a plu à Marguerite Duras.
Et d'ailleurs, elle dit, dans les interviews, on lit que Marguerite Duras, ça l'a fait rire. Cette histoire l'a fait rire de cette femme qui tue cet homme et qui le dissémine comme ça, en petits morceaux, un petit peu partout. Elle avait trouvé ça très ingénieux, très drôle.
Moi, ce que je trouve ingénieux, c'est comment les enquêteurs, à partir de tous les trains, ont relié toutes les lignes en disant ça arrive à un point en commun et c'est là où habite l'assassin.
C'est bluffant.
Judith Mag est au théâtre, donc c'est toujours un bonheur de vous voir au théâtre, quelle que soit la pièce,
merci.
Je vous le dis. Puis c'est même un bonheur de vous voir dans la vie de tous les jours.
Oh, c'est gentil.
Judith, avec cette douce.
Tous les jours.
Oui, tous les jours. Venez tous les jours.
Je vais dire tous les jours.
S'il vous plaît. Maintenant, vous avez l'adresse et le code d'entrée. Avec Jacques Frantz et Jean-Claude Leguet, la mise en scène de Thierry Harcourt, c'est au théâtre du Lucernaire jusqu'à la mi-novembre, La Mante Anglaise. Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit que Judith Magre revenait dans l'émission.
Oui, et Judith Magre, quand je pense à vous, récemment, je pense à ça.
J'ai quelque chose à vous dire.
Violée ?
Mon Dieu.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les flics ? T'as pas été les voir ?
Bon, on commande.
Sur le vif, il était accroupi dans les buissons en train d'observer votre maison.
Et vous avez vu son visage ?
Non, il portait un masque ou une espèce de cagoule de ski.
C'est la bande annonce de Elle, le dernier film de Paul Verhoeven,
ah,
où vous incarnez la mère cougar d'Isabelle Huppert.
Oui.
C'était une apparition absolument géniale dans
ah
ce
bon
film. Ah ouais, moi je vous ai complètement, j'étais
ah bah
complètement
vous
fan.
Vous faites vraiment plaisir.
Ah, complètement fan. En plus, vous êtes là avec ce jeune homme. Vous êtes d'une modernité insensée. Vous faites passer Isabelle
drôle
Huppert pour
ouais
une ringarde ouais en deux temps, trois mouvements. En tout cas, son personnage.
Voilà, un peu ringarde Huppert.
Mais non, le personnage. Le personnage. Et en fait, je voulais vous interroger sur votre rapport au cinéma, Judith Magra.
Par rapport au, votre rapport au sexe et au cougar
et au jeune homme. Et au jeune homme, pourquoi ouais pas, on pourra en discuter, il n'y a pas de mal. Parce que dans vos interviews, vous dites « Ma vie, c'est le théâtre, autrement je m'emmerde ». Est-ce qu'on pourrait dire « Ma vie, c'est le cinéma, autrement je m'emmerde » ou c'est la même part dans votre...
Non mais attendez, j'ai
je
toujours...
rappelle que quand elle s'emmerde, elle découpe.
Elle découpe.
j'ai
pour
toujours
la mettre de la
joué au théâtre, je n'ai pas arrêté.
Oui.
Et au cinéma... Chaque fois que j'ai tourné, c'était toujours des seconds rôles. J'ai tourné avec beaucoup de plaisir, avec des personnes que j'aimais beaucoup. Mais je tournais 6 jours, 8 jours. Enfin, je veux dire, ça me plaisait de le faire,
oui,
mais ça a moins occupé ma vie que le théâtre. Mais c'est parce qu'aussi, on ne m'a pas proposé des
c'est
choses.
Ce que j'allais dire, est-ce que c'est par défaut? Votre réaction, c'est parce que finalement, on ne vous propose pas grand-chose qui vous plaise. Et
non,
donc,
c'est parce qu'on
ne
propose
théâtre...
pas grand-chose au cinéma.
Au théâtre, on vous a proposé plus, en fait.
Bah oui, puisque j'arrête pas de jouer.
Ouais, c'est vrai.
Et au cinéma, on m'a proposé peu de choses, donc je ne les inspire pas, les gens de cinéma. Ils ne viennent pas me voir. Je ne sais pas, enfin c'est comme ça, mais je ne me plains pas.
Non, hein. non, je sais bien que vous ne vous plaignez pas, mais je me disais
en
parce
tout cas,
que...
tourner avec Verhoeven, ça a été un vrai bonheur. C'est un être extraordinaire.
C'est rock'n'roll. Oui.
D'une séduction incroyable, d'une beauté,
non,
d'un charme
ne
incroyable.
Ne me dites pas, non.
Ah, si.
Judith, ne me dites
quoi,
pas.
Quoi, vous ne le connaissez pas?
Non, non, mais vous et lui, non.
Ah, pas du tout, mais oh, pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Mais juste... lui, en tout cas, il s'en vante, hein.
Non, ça m'étonnerait, sûrement
et
pas.
Et là, justement, Judith Magra, on est venu vous voir, on est venu vous chercher pour ce rôle. C'est une proposition de cinéma, une proposition magnifique, pour le coup.
Bah oui, je ne me suis pas rendu compte au départ que... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de ce rôle, et je suis très contente, et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. D'abord, tourner avec Isabelle Huppert, que je connais depuis longtemps, qui n'est pas une amie, mais enfin quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, c'était un vrai bonheur. Et puis, tourner avec Verhoeven, c'était merveilleux.
Il y a d'autres projets, d'ailleurs, vous avez... En tête, ouais, côté cinéma, ou des envies?
Des envies, je ne peux pas en avoir si on ne me propose rien.
Mais vous, vous pouvez...
Vous pouvez très bien dire, j'aimerais tourner avec tel ou tel réalisateur.
Oui. Non, moi l'envie, elle vient de l'envie des autres. À la ville comme à la
ça
scène.
Ça marche pas dans les deux sens.
Faut que ça se fasse en même temps.
Ah.
Moi, je crois qu'au coup de foudre...
Vous n'êtes jamais allé voir un réalisateur ou un metteur en scène pour le théâtre en disant, j'aimerais travailler avec vous.
Non, ça m'est jamais arrivé.
Par pudeur, par timidité?
Peut-être.
Et vous avez un agent qui fait ça pour vous, peut-être?
Oui, peut-être.
Mais... Ah, il vient d'être licencié, apparemment. Il aurait dû le faire,
parce que j'entends que c'est difficile d'exprimer son désir, mais on est représenté, j'imagine, dans vos métiers aussi, pour penser à la suite. Là, par exemple, le théâtre, est-ce que vous avez déjà une idée de la prochaine pièce que vous
oui
allez jouer?
Ah. Oui, oui. Et... Oui, mais ça, je ne vais pas vous en parler, parce que tant que les choses ne sont pas
très
absolument...
Très bien, d'accord. N'en parlons pas, on en parlera
ça,
tout à l'heure.
Et puis comme ça, je pourrais revenir.
Eh oui.
Ce sera une découverte.
Ou pas. La menthe anglaise de Marguerite Duras, c'est au Lucernaire, avec Judith Magra, qui est notre invitée. Et à suivre, il y aura la bande originale de Judith Magra. Nous parlerons également des faits divers qui font cette actualité, qui font d'ailleurs aussi de très bonnes émissions de radio sur Inter, puisque nous recevrons Christophe Barrère, le rédacteur en chef et producteur d'Affaires Sensibles, qui est tous les jours sur Inter de 15h à 16h. Mais d'abord, voici l'humeur de Thomas Wiesel, mesdames, dans la bande originale France Inter.
Merci beaucoup. Alors cette semaine à l'Assemblée nationale, on parle de loi anti-terrorisme et c'est un peu confus, hein, parce que la lutte anti-terroriste, c'est compliqué, c'est pas comme la lutte anti-moustique, il y a pas juste un spray à acheter. La lutte anti-terroriste, il faut empêcher je sais pas qui de faire je sais pas quoi, je sais pas quand, je sais pas où. Bonne chance. Donc la France est en état d'urgence depuis 2 ans. C'est une urgence qui se prolonge un peu, je crois qu'on n'a pas la même définition du mot. Moi si je fais une allergie aux noix, que je vais aux urgences et qu'on me reçoit dans 2 ans, j'ai le temps de ressembler au Bogdanov. Macron, il avait promis pendant la campagne de sortir de l'état d'urgence et là pour faire comme s'il tenait ses promesses. Il veut d'abord transposer dans le droit commun plusieurs des dispositions de l'état d'urgence. C'est le type qui dit qu'il va arrêter de boire et sa solution, c'est de s'injecter de la vodka en intraveineuse. C'est-à-dire qu'on va être en état d'urgence permanent, Nagui. Bon, pour toi qui cours partout en présentant 18 émissions par jour, ça va rien changer. Mais une des mesures, par exemple, c'est des contrôles d'identité aux abords de toutes les frontières, gares, aéroports. Contrôler les papiers pour lutter contre le terrorisme, je garantis pas l'efficacité. À mon avis, celui qui sait où se procurer une Kalachnikov, il sait où se procurer des faux papiers. Mais les contrôles d'identité, c'est pas trop dérangeant, vous me direz. Quand les policiers ne les font qu'en regardant les papiers, ça va. Mais si, comme avec Théo, ils les font en insérant une matraque dans l'intestin grêle, c'est tout de suite moins cool. Moi, l'excuse de j'ai pas fait exprès, j'ai glissé, c'est entré tout seul, j'y crois pas. Hein, parce que moi, parfois, la fille, elle est d'accord et j'arrive pas à la mettre dedans. Oh, mais j'ai de la chance, hein, j'ai de la chance. Je suis rarement inquiété. Mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai de la chance, mais je suis rarement inquiété par la police. Il faut dire que je ressemble pas tellement à l'image qu'on se fait des terroristes. Moi, je ressens plus à la photo d'un djihadiste converti avant qu'il se soit radicalisé, quand il s'appelait encore Maxime Toupin, qu'il habitait Tinker, qu'il était puceau et amateur de jeux vidéo de guerre.
Ah voilà, là je te reconnais.
Voilà, ça c'est moi. Donc la surveillance des communications sera aussi accrue. Du coup, moi, quand je sextote, je n'ose plus écrire, tu verras, je suis une bombe au lit, parce que j'ai trop peur que la police débarque. Du coup, j'écris, je vais provoquer en toi un torrent de joie qui respecte les lois de la République. Et là, forcément, Leïla, elle est toute confuse, elle comprend pas, elle me répond, tu vas me péter le cul ou pas? Voilà, cette nouvelle loi, elle inquiète beaucoup ceux qui tiennent.
Alors qu'on discute, toi et moi, mon petit chaton, là, parce que je sais pas ce que
elle
t'imagines.
Parle pas comme ça.
La semaine passée, elle s'est plainte de pas être dans ma chronique. Du coup, j'ai rétabli ça cette semaine.
Oui, bah justement, alors c'est le curseur, t'es allé trop loin dans le curseur. Ouais,
il est arrivé en fanfare.
Ouais, fais gaffe.
Je rétablirai la semaine prochaine. Cette nouvelle loi, ça inquiète beaucoup ceux qui tiennent à leur liberté, mais le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, il les rassure, il dit, vous n'avez rien à craindre si vous n'êtes pas un terroriste. Et là, ça va déjà mieux, hein, parce qu'on a confiance. Un gouvernement qui a pris François Bayrou pour un ministre de la Justice et Stéphane Bern pour un historien, il peut prendre n'importe qui pour un terroriste, à mon avis. Bon, au moins, on parle plus de déchéance de nationalité, hein, cette idée brillante de François Hollande qui pensait que les terroristes prêts à se faire exploser seraient freinés par l'idée de perdre leur passeport. Parce que oui, c'est vrai que c'est efficace de dire à des terroristes ou attention, fais pas ça, ce sera plus difficile de voyager. Oui, on sait, on a prévu de faire péter l'aéroport. Non, on veut faire hésiter des terroristes avec des tracasseries administratives. D'ailleurs, j'espère que le chauffeur du camion à Nice, on lui a enlevé des points sur son permis pour perte de maîtrise du véhicule. On sait pas comment lutter contre le terrorisme islamiste, mais heureusement, Laurent Wauquiez, c'est un expert. Il a déclaré cette semaine qu'il connaît bien l'islam car il parle arabe. Vous avez vu ça? Sauf que quand on lui demande de parler arabe, Edouard aux cheveux d'argent, il répète toujours la même chose. Il dit, j'ai appris l'arabe il y a longtemps au Caire. Bon, voilà. Moi aussi, je parle arabe. Enfin, j'utilise les chiffres arabes. C'est presque pareil. Mais en Nagui, si jamais je suis pas là la semaine prochaine, j'ai mangé un kebab ce week-end, je vais aller résoudre la crise en Turquie. Moi, j'y connais rien en islam, hein. Donc, j'ai suivi les conseils de Laurent Wauquiez, je me suis documenté. Enfin, j'ai acheté l'album de Faudel et j'ai réservé des vacances au Club Med de Sharm el-Cheikh. Du coup, je peux aller donner une conférence à la Sorbonne sur le wahhabisme. Non. La vérité, c'est que j'ai aucune idée de comment lutter contre le terrorisme. Et du coup, je pense que j'ai toute ma place à l'Assemblée nationale.
Merci, Thomas.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Dans cette bande originale, nous parlerons tout à l'heure avec Christophe Barrère, le rédacteur en chef et producteur d'Affaires Sensibles, de cette fascination que nous pouvons avoir les uns et les autres pour les faits divers. Mais d'abord, la bande originale de Judith Magre, on va commencer avec Charles Trenet.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il?
Et que reste-t-il de Charles Trenet dans votre mémoire quand vous entendez cette chanson? Vous vous voyez dans un appartement particulier, dans un cadre précis, avec des amis en...
Non, j'entends ça, ça me tourne le cœur, ça me bouleverse. Ah oui, ah oui, je trouve que c'est une chanson absolument extraordinaire, bouleversante, émouvante. Fou. Tiens, je vais même pas y penser, je vais me mettre à pleurer.
D'accord.
Okay. Une super reprise de Bachung de cette chanson, formidable.
Que reste-t-il de nos amours? Les années folles et le cours Simon, c'est ce que vous avez vécu dans le milieu des années 40. Vous étiez étudiante à la Sorbonne.
Oui.
Et vos parents n'étaient pas très heureux de vous savoir à Paris, menant une vie parisienne.
Oui, c'est vrai, oui.
Elle avait peur de Paris? C'était l'image de tout Paris et le lieu de...
Les garçons, peut-être.
Non, c'est pas si simple que ça. J'ai toujours été très insupportable. À partir de l'âge de 7 ans, je les ai emmenés.
Ah, c'est pas que aujourd'hui, alors. Ah, d'accord.
Non, mais j'avais des parents absolument merveilleux que j'ai beaucoup...
Saoulé,
terrorisé.
Oui. Et j'ai continué à les saouler pendant un certain temps. Et puis après, bon, ben, de toute façon, on a eu des relations absolument merveilleuses parce que c'était des gens formidables.
Mais quel genre de jeune fille étiez-vous?
Mais il y a quand même un épisode
comment
assez
vous
drôle.
Vous voulez que je me définisse? J'étais très libre.
Vous êtes bien placé.
J'étais très libre et je faisais des choses qu'à l'époque, les jeunes filles ne faisaient pas.
Il y a par exemple un truc très drôle, c'est que vous deviez vous marier, vous rencontrer un jeune homme.
Je ne me suis pas mariée. J'ai foutu en l'air la bague de fiançailles, ça a été un grand scandale. Mais enfin, j'ai eu... Oui, c'est très compliqué. Non, il y a eu un garçon qui a eu un coup de foudre pour moi et trois jours, il m'a demandé en mariage. Alors je me suis dit, pourquoi pas, d'autant plus qu'il foutait le camp de la France et qu'il allait m'attendre à l'étranger. Ça faisait exotique. Alors je me suis dit, très bien, pourquoi pas. Et puis, mais au moment où
vous aviez quel âge à ce moment-là?
10
ans.
17 ans.
17 ans.
17 ans. Mais je connaissais déjà la vie. Non, je vous dis que j'étais très en avance pour mon âge.
J'entends.
Et dans mes études et dans la vie, etc. Et ça plaisait à personne, en tout cas, surtout pas à mes parents. Et puis, quand il a fallu que je retrouve ce jeune homme, ça m'a pas plu. Alors, un peu scandale. Et là-dessus, c'est vrai que j'ai pas revu mes parents pendant un certain temps.
Vous vouliez devenir prof de philo, c'est ça, initialement?
Oui, quand j'étais petite, quand on est petit, moi je voulais être championne de tennis, prof de philo, des tas de choses. Et puis c'est vrai que j'ai fait un an de philo à la Sorbonne.
Vous avez plus suivi des études de philo qu'un cours de tennis.
Oui, absolument. Ah oui, d'autant plus qu'il y avait un tennis à la maison. Et j'étais...
Chic ?
Non, c'était pas chic, c'était comme ça. Bref.
Nagui, il y en a trois.
Justement, j'ai pas appris de cours de tennis parce que quand j'étais petite, j'avais 6-7 ans, j'étais amoureuse folle d'un garçon très beau qui devait en avoir 15 ou 16 et qui venait jouer au tennis avec mes parents. Et moi, je ramassais les balles. Il me regardait même pas. Évidemment, j'avais 5-6 ans. Et ça a été, mais vraiment, je pense encore à ça maintenant.
Je vois, oui.
Avec le cœur noué. Et j'ai jamais joué au tennis à cause de ça. Alors que tous mes frères et sœurs sont sportifs, jouent au tennis. Enfin, si j'ai une raquette, mais j'étais maladroite comme tout, parce que je pensais qu'au ramassage de balles, hein, ce garçon beau comme un dieu.
L'amour a souvent été un moteur dans votre vie
Le seul.
Le seul moteur.
Ouais. C'est la seule chose intéressante dans la vie.
Donc vous alliez en fonction des garçons qui vous séduisaient plutôt vers tel ou tel domaine, là où ils étaient, pour les fréquenter?
Non.
En attendant que ce soit eux qui fassent le premier pas, puisqu'on a compris que c'est jamais vous qui le faisiez.
Non, parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de faire du théâtre, enfin j'ai décidé, ça s'est fait un peu comme ça, comme tout ce qui m'arrive d'ailleurs.
Le théâtre, vous avez décidé comment d'aller au cours Simon?
Parce que justement...
Pour draguer?
Non, pas du tout. Ah. C'est parce que je venais de foutre le camp, j'en avais marre de l'année de philo. Et puis, il y avait des photos de René Simon, je me rappelle, c'était dans Match, je crois, un truc comme ça, avec de très belles filles. Et je me suis dit, après tout, je vais aller au cours Simon. Et il a été extraordinaire. Je lui ai tout expliqué, je lui ai dit que j'étais paumée, que je ne pensais pas du tout faire du théâtre, mais qu'après tout... Et j'ai passé quelques mois au cours Simon.
Mais pardon, vous êtes allé au cours Simon parce que vous avez vu René Simon en photo avec des jolies filles dans un journal.
Ouais.
C'est ça votre moteur pour être comédienne?
Mais vous savez, on ne sait jamais exactement pourquoi on fait les choses. Ça a été un petit déclic. J'étais très, 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 très paumée, très seule, très... très seule. Je venais de foutre le camp. Je me suis retrouvée sur un banc à Saint-Germain-des-Prés en me disant « qu'est-ce que je vais faire ?» Je lis ça. Et alors là, Simon a été extraordinaire. Il m'a dit « quand tu commenceras à gagner ta vie, tu me paieras ». Et j'ai suivi ses cours pendant quelques mois. Mais je ne sais pas comment il a pu me donner mon premier contrat, étant donné que quand j'étais chez lui, il me faisait monter sur scène. J'avais tellement le trac, je me mettais à pleurer. J'ai jamais pu dire une scène de ma vie. Le seul texte que j'ai pu dire, c'était la Lorelei. Et j'en disais trois phrases. Et un jour, Simon a dit, vous voyez, cette gourde, peut-être qu'un jour, elle fera quelque chose. Et c'est lui qui m'a eu mon premier contrat.
Et quelle carrière depuis, quand même.
Oui, enfin, il ne faut pas exagérer.
Quand même. Judith Magre, en 1961, vous écoutiez Billie Holiday. Living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. On sent beaucoup d'émotion même dans l'interprétation de Billie Holiday. On sent que sa vie devait pas être simple autour de ce qu'elle porte avec ce Summertime. En 61, Judith est au théâtre.
Oui, déjà. Vous intégrez la compagnie Renaud Barreau, Judith, et l'année d'après, en 62, le TNP, et là c'est Jean Villard.
Oui.
Et c'est quoi la rencontre d'un Jean Villard dans une vie? Est-ce que c'est quelque chose qui...
Ça marque.
Qui marque ou pas?
Tout marque. La rencontre avec les Barreaux, je peux vous dire que ça m'a marqué. Jean-Louis, c'était un être absolument exceptionnel, magnétique. On arrivait, il avait l'Odéo à ce moment-là, on arrivait au théâtre. Quand il arrivait, on n'avait même pas besoin de le voir, il y avait de l'électricité dans l'air. C'était un personnage fantastique, Jean-Louis Barreau.
Mais au sens positif du terme, quand vous dites de l'électricité dans l'air, parce que...
Ah non, 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 de l'électricité positive.
Positive, c'était, pas pour s'énerver,
non, c'était
pas pour...
De, d'accord. C'était un être magique, absolument.
Dynamique.
Dynamique et... Enfin, absolument merveilleux. Je parle de lui comme si j'avais été amoureuse de lui. Pas du tout. D'ailleurs, quoi, on n'était pas amoureuse d'un type comme ça.
Il foisonnait d'idées, il était toujours en mouvement, en réflexion.
C'était le... C'est très difficile de parler de quelqu'un de tellement formidable. C'est beaucoup plus facile de parler des défauts de quelqu'un que de ses qualités quand elles sont à ce point exceptionnelles.
Pour ceux qui n'ont pas connu Renaud Barreau, qu'est-ce qu'on peut leur dire, leur expliquer aux jeunes générations de comédiens, de dire il y a eu une compagnie où il se passait quoi?
Il y avait Barreau et il y avait Madeleine et c'était un couple extraordinaire. Ils étaient amoureux fous l'un de l'autre, Madeleine, son Jean-Louis. Et moi, j'étais très émue par le couple qu'ils formaient. Mais enfin, c'est pas pour ça quand même que j'aimais être...
Ce que j'allais dire, ouais, ça résume pas, ça fait pas forcément... Des bons couples ne font pas que des bonnes pièces de théâtre.
Oui, mais là, Madeleine avait une importance... Elle était très, 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 très importante, parce qu'elle était toujours dans la salle, elle critiquait, elle savait très bien ce qu'elle voulait, elle pouvait être très dure, aussi bien avec lui qu'avec les comédiens. Mais Jean-Louis, c'était... Bon, je rabâche, mais il était magique.
Et Jean Villard vous offre le rôle de Cassandre dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, avec Jean-Louis Trintignant.
Oui, alors là
c'est un, parce c'est que un Jean succès
Villard,
à Avignon.
Jean Villard, un an ou deux ans avant, il me téléphone un jour en me disant « Est-ce que vous pouvez en trois jours apprendre, je crois que c'était le site, Sylvia Beaufort s'est cassée la gueule, et elle peut pas, enfin elle est malade, et dans trois jours, moi je passe trois jours, nuit et jour, à apprendre ce rôle que je connaissais pas. Enfin que je connaissais pas, j'avais lu la pièce autrefois.
Oui, pas au point de la jouer par cœur.
Au bout de trois jours, il téléphone, Sylvia Beaufort est remise et reprend le rôle. Là, j'ai passé deux jours à sangloter. Mais alors vraiment à sangloter.
D'avoir travaillé pour rien.
Non.
Ah, de déception.
De déception. Ouais. J'étais tellement heureuse de faire ça. D'aller chez Villard, c'était quand même, à l'époque, que c'était extraordinaire. J'étais tellement heureuse de faire ça. Et alors là... J'ai détesté Sylvia Beaufort, je dis ça parce que nous avons toujours été très amis.
Alors, on apprend toujours de ces échecs, on apprend toujours des erreurs commises ou des moments de déception. Qu'est-ce que l'on apprend dans une carrière de comédienne, d'actrice, quand on
écoutez, moi, d'avoir sangloté pendant deux jours, ça m'a rien appris. Vraiment rien. Le malheur, moi, je trouve pas que ça apprenne quelque chose. Ça vous.
Des échecs.
Non, on est plein de cicatrices. Non, ça va pas du tout. Ce qui fait que quand il m'a rappelé plus tard pour me proposer la guerre de Troie, je me suis dit, il se fout de ma gueule.
Ouais, mais là, non.
Et après, on est devenus très, très amis.
C'est une date importante, c'est la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. Vous faites partie de l'histoire de ce festival avec cette mise en scène.
Oui, moi j'ai joué pendant des années, pendant que... Alors Villard n'était plus à Chaillot, mais il était directeur du festival. On se retrouvait tous les ans au festival. Je ne sais pas, j'ai joué 7-8 pièces, c'était magique. Oui, ça c'était merveilleux alors.
On va passer à 1990, où vous écoutiez Miossec.
Je vous téléphone encore, ivre mort au matin, car aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, et je me remémore notre nuit très bien, comme un crabe déjà mort, tu t'ouvres entre mes mains, ceci est mon...
On a choisi ce titre, vous en fait vous avez dit n'importe quel Miossec, vous aimez Miossec.
Je le connais pas du tout.
D'accord. Mais vous l'écoutez? Non plus.
Si, je veux dire que chaque fois que je l'ai entendu, à la radio, où j'ai toujours aimé. J'aime bien sa gueule. Je l'ai vu à la télévision. D'ailleurs, ouais. j'étais dans un jury de films, de courts-métrages.
Il est comédien aussi. Mais...
Et moi, j'ai donné le prix à Biosek. Il ne l'a pas eu, mais enfin, il a eu.
Ah, vous avez voté pour lui.
J'avais voté pour lui.
Quelle est la place de la musique dans votre vie? Vous écoutez de tout régulièrement vous...
Non, ça n'est pas. J'ai pas de, je fais pas de choses très régulières.
Mais est-ce qu'il y a de la musique chez vous ou
Ah oui, 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 oui. Alors, moi, j'ai dans une pièce, j'ai Radio Classique en permanence. Et d'ailleurs...
Donc ça, c'est l'ascenseur.
Hein?
Non, rien. Et
mais bah, non. Je blague. Attendez, mais vous ne me laissez pas terminer. Dans une pièce, il y a Radio Classique. Dans une autre, il y a France Inter. Dans une autre... Je n'ai pas un grand appartement, mais j'ai quand
vous
même.
Passez En fait, vous savez que vous pouvez changer de radio, vous n'êtes pas obligé de changer de pièce.
Un voyage.
Non, justement. Je change de radio en changeant de pièce.
Ah, d'accord,
pièce.
Ok. Donc, c'était très pratique.
Parce qu'autrement, c'est compliqué.
Ah, je suis d'accord avec vous.
Moi aussi, je suis d'accord.
Non, non. Non, mais c'est bien, comme ça, j'ai des surprises.
Voilà. 1990, il a fallu attendre 1990.
Et oui, pour recevoir un Molière, le Molière de la comédienne dans un second rôle pour Grieg de Steven Berkoff, c'était à la Colline.
Oui.
Ça, c'est une récompense qui, comme vous avez l'air de vous réjouir de tout ce qui vous arrive, là, comment vous le prenez, le Molière?
Comment je peux quoi?
Comment vous l'acceptez, ce Molière? Vous l'attendiez? Vous le vouliez pour ce rôle-là?
C'était un rôle magnifique et surtout, c'était un travail avec Lavelli qui, lui aussi... est un être complètement magnétique, magique, exceptionnel.
Que... D'accord, mais le Molière, vous n'êtes pas dit, il était temps quand même. Ils attendent 1990 pour remettre un Molière.
Non, pas du tout. Non. Vous savez, quand on a des récompenses, après j'en ai eu deux.
Vous savez, vous en avez eu en 2000 et en 2006.
Moi, je vais vous dire ce qui m'a fait très, très, très plaisir. C'était très longtemps avant. J'ai eu un prix de la critique.
Ouais.
Bon, l'année d'après, c'était en vacances. Au Maroc, en train de siroter. Et tout à coup, il y a un monsieur qui me dit « Je vous félicite pour votre prix. » Je me dis « Il est un peu gâteux, je l'ai vu l'année dernière. » Je dis « Ben... » Il me dit « Non, il m'apporte le journal. » « Ah ben oui, je venais d'avoir aussi le prix de la critique. » Oh, j'étais contente, j'étais en vacances, j'étais avec un amoureux, j'étais fière d'être avec... Enfin, que j'ai ça en étant à côté de lui. Un quart d'heure après, il arrive et il me dit « Ah ben, je vous félicite pour votre prix. » Je me dis, il est complètement gâteux. J'avais le prix Plaisir du Théâtre. J'ai été la première personne à avoir le prix Plaisir du Théâtre. Et ça, ça m'a fait un plaisir fou. Parce que c'était Dominique qui avait ce restaurant rue d'Arus, ce restaurant russe, où j'ai passé quelques moments absolument exceptionnels. Tout le monde allait à ce moment-là dans ce restaurant. C'était merveilleux. Et de recevoir ce prix que Dominique avait créé, alors ça, ça m'a fait un plaisir fou. Et là-dessus, il me dit, et puis alors c'est un prix, il y a même de l'argent. Je lui dis, combien? Champagne pour tout le monde, j'ai bouffé le prix.
Avant de recevoir.
Ah, c'était très très gai.
On va reparler de la pièce de théâtre qui s'appelle L'Amante anglaise, signée Marguerite Duras avec Judith Magre. C'est au Lucernaire, je le rappelle. Avec Christophe Barrère d'abord, nous allons parler des faits divers. Merci Christophe de venir à ce micro. Vous êtes rédacteur en chef et producteur d'Affaires Sensibles. Tous les jours, de 15 à 16 heures, Fabrice Drouel, de sa belle voix, nous conte avec délectation ces faits divers. Et puis alors, on est pris, on est happé par cette formidable émission. Et pourquoi justement, à votre avis, sommes-nous fascinés par les faits divers?
Ça dit quoi de nous, hein?
Ouais. Ça va être difficile de vous éclairer précisément, mais je pense comme tout le monde. Je pense que le fait divers questionne, vraiment, il questionne parce que les effets qu'il porte en lui traversent à peu près toutes les frontières et tous les domaines. Par exemple, certains faits divers sont plus explicables pour des raisons sociologiques. D'autres pour des raisons politiques, d'autres pour des raisons psychiatriques, psychologiques.
Par exemple, tout à l'heure, on disait avec Judith Mac que le personnage qu'elle joue dans la pièce, encore une fois, tirait d'un fait divers, mais en tout cas, le fait presque tue par ennui pour qu'il se passe un truc dans sa vie, pour qu'on lui parle, pour avoir à nouveau de l'importance, avoir de la visite. Ok, ça sera la visite de policiers, de juges et de journalistes, mais au moins, il va se passer quelque chose. Est-ce que ça, vous vous rendez compte aussi de temps en temps que ça peut arriver?
Alors, c'est pas non plus aussi simple, hein.
Ouais. Non, non, mais j'entends. Mais j'essaie
ennui,
de trouver quelque chose.
Ennui,
de...
je ne sais pas. Sur les faits divers qu'on a traités, affaires sensibles et ceux qui nous intéressent un peu tous, le mot ennui, oui, il est, peut-être qu'il peut y avoir de l'ennui, mais en tout cas, c'est pas révélateur du faux divers.
Non, mais se donner de l'importance, par exemple, se vouloir faire la une des journaux en faisant des horreurs. Oui, on peut même, on peut même penser que même les terroristes sont veulent faire la une de, du 20h en faisant des aussi des horreurs. Cette proportion a finalement cherché une espèce de communication. De...
Oui, en général, c'est le dérapage d'une seule et même personne. Même si cette personne est prise dans un contexte, dans une famille. Je voudrais vous donner un exemple, parce que c'est très difficile de parler sans exemple. Mais j'ai fait une petite liste, je ne vais pas vous montrer toute la liste que j'ai faite, mais les faits divers, d'abord, questionnent, et donc on les questionne. Et le dernier en date, 1984, le petit Grégory est tué dans la Vologne et jeté dans le fleuve. Cet été... Un journal, l'événement de jeudi, reparle de la nouvelle enquête autour de l'affaire Grégory. De nouveaux personnages qui étaient déjà dans l'enquête précédente ressortent. C'est une histoire terrifiante. C'est une histoire de village, c'est une histoire
de famille,
ouais. De haine, de fric.
De jalousie parce que...
Terrible.
L'un c'est le père, c'est trouvé...
De terrible jalousie, absolument.
Avec une promotion, voilà.
Absolument. Mais est-ce que tout ça amène... aux raisons d'être de
l'univers,
à l'horreur qui est le meurtre de ce petit garçon. Non, évidemment, pris comme ça, non. Ce qui est passionnant, et ce qui nous questionne là-dedans, c'est comment ces choses-là s'agencent, comment elles peuvent exister à un moment donné pour qu'un être, un ou deux ou trois, je ne sais pas dans la catégorie, prenne cet enfant et le tue.
Mais c'est quoi, est-ce que c'est notre côté morbide ou est-ce qu'il y a presque une identification que l'on pourrait faire avec des enseignements à tirer pour vivre heureux, vivons cachés, pour en l'occurrence le père. Non, mais il a été promu et avec quelques sous supplémentaires, il a changé. Enfin, quand on entend les témoignages, il a acheté un nouveau salon avec
un canapé
et donc là d'un coup une partie de la famille devient jalouse. Au point de tuer un enfant, quand même, il y a... Voilà,
Après,
il y a canapé.
Il y a effectivement des... Ça évolue différemment.
Ouais.
Non, le fait divers, c'est pas uniquement des côtés malsains chez le public ou dans le public qui écoute ou nous-mêmes. Non, c'est pas que ça. Regardez, par exemple, l'histoire de Roman. Cet homme qui a menti pendant 18 ou 20 ans à sa femme, sa famille, ses amis, et qui a tué sa femme et ses enfants, parce qu'à un moment donné, la vérité, il ne pouvait plus la supporter. Ça fait un très beau roman.
Oui. Hein. De carrière d'un
conseil. Absolument, L'Adversaire. Très beau roman.
Qui a été adapté au cinéma aussi.
Et qui a été adapté, Clusé. Même titre.
C'était pas Clusé
Par Nicole Garcia.
Nicole Garcia. Non, mais le
c'est vrai que les deux se ressemblent.
Non, l'acteur, je parlais de l'acteur.
Alors... Est-ce que ce qui est intéressant là aussi,
c'est cette dérive
qui est familiale, qui est psychologique, qui est psychanalytique. Donc ça nous renvoie à chaque fois à des êtres qui sont à la fois dans le quotidien, dans le commun, que l'on pourrait voir, que l'on pourrait rencontrer, avec qui on peut discuter, et en même temps dans l'extraordinaire, dans quelque chose qui est à 10 000 lieues. Et donc c'est pas uniquement effrayant, c'est en tout cas très intrigant.
Fascination et répulsion en même temps, en fait.
Absolument.
Ça peut être aussi rassurant de se dire j'ai la chance de ne pas vivre ces horreurs-là. Et voilà.
Pas encore.
Oui, voilà. On ne sait jamais.
Personne n'est protégé.
Est-ce qu'il y a plus de faits divers qu'avant ou est-ce qu'on en parle plus? Est-ce qu'il y a plus d'émissions de radio, de télé, de moyens de communication? Non, mais.
Je pense qu'il n'y en a pas plus qu'avant, tout simplement. Et d'ailleurs, je vais vous citer des exemples.
Il y a une constance dans les homicides depuis plusieurs siècles.
Absolument. Et il y a un fait divers dernièrement dont on a parlé à l'affaire sensible, je m'excuse, mais parce que c'est un exemple, c'est le curé du Ruf.
Formidable émission, je l'ai entendu l'autre jour.
Je l'ai pas entendu.
Le curé du Ruf. Ce curé, c'est dans les années 50. Moi, je l'ai découvert cet été parce qu'il y avait un grand papier de Claude Lassmann qui avait écrit sur Uruf. Lassmann, c'est pas non plus quelqu'un qui se laisse comme ça parter par des... Bon, qui était sorti dans les temps modernes de Sartre et qui a été ressorti en fin des années 90 chez Solers. Donc, vous voyez, le curé d'Uruf, c'est quoi? C'est un curé dans la campagne Lorraine qui a tué... qui d'abord violait et engrossait certaines jeunes femmes, et qui la dernière de ces femmes a accouché d'un enfant. Il n'a pas voulu de cet enfant. Pourquoi? Comment? Il a tué.
Et les circonstances sont horribles.
Horrible. Et l'Église l'a soutenu, quand même, qu'on le veuille ou non.
Il y a eu un silence, disons, complice de l'Église pendant longtemps.
Voilà, exactement. Et c'est un questionnement terrible, pas parce que c'est l'Église, mais comment cet homme dérape à ce point-là? Est-ce que c'est la folie? Et si c'est la folie, est-ce que ça nous ressemble pas un peu? Est-ce que ça nous regarde pas à nous aussi? C'est ça qui est terrible dans le fait divers, c'est que franchement, il nous questionne beaucoup, beaucoup.
Et puis c'est une matière géniale pour les auteurs. On voit Marguerite Duras qui s'était déjà illustrée par le passé sur sur le petit Grégory.
De façon très malheureuse.
De façon.
Mais alors là, on a retenu que cette phrase-là.
Oui, c'est ça.
L'article était beaucoup plus long. Il était quand même assez intéressant.
Sublime, alors, forcément sublime. Hein, c'est
oui,
ça.
Forcément sublime était peut-être de trop. Mais l'article était.
Expliquons un peu là, parce que ceux qui ne sont pas au courant sont un peu largués.
Marguerite Duras, voilà. En fait, a suivi l'affaire du petit Grégory au moment où l'affaire a eu lieu. D'ailleurs, elle était assistée sur place d'un jeune journaliste qui bossait pour Libération, qu'on connaît bien maintenant, c'est Denis Robert, qui a fait toute l'enquête Clearstream, voilà, qui l'assistait sur place. Absolument. Et donc, elle a voulu suivre, elle a voulu comprendre, alors qu'à cette époque-là, c'était donc la mère du petit Grégory qui était estampillée comme ce monstre absolu. Elle voulait envisager une autre raison, une autre explication. Et d'ailleurs, dans le travail de l'amante anglaise, on sent qu'elle cherche plutôt qu'à expliquer, à peindre des caractères, des situations, et de se dire qu'après, on s'en empare ou on s'en empare pas. Mais c'est une matière géniale pour les auteurs. On a plein de bouquins qui viennent
en
de
faits divers. En tout cas, Marie Duras avait une fascination pour ces faits divers. Ouais, justement, est-ce que c'est un...
Mais pas qu'elle, beaucoup d'écrivains.
Ouais, voilà. Alors, est-ce que ça, c'est propre à tous les écrivains dans le monde entier, ou est-ce que c'est franco-français?
Non, c'est pas du tout franco-français. C'est même aux États-Unis, beaucoup d'écrivains reprennent ou partent sur des fictions à partir de faits divers. En France aussi, évidemment.
Truffaut se nourrissait de faits divers. Il avait des casiers avec classés par ordre alphabétique. Ils existent toujours. Il était nourri de faits divers.
Parce qu'aucune aucune fiction ne peut arriver au niveau d'extravagance des faits divers, justement, et de la folie des hommes.
C'est-à-dire que une fiction, c'est limité dans le temps. Un fait divers, c'est plus limité dans le temps. Une fiction, c'est limité dans l'espace. Un fait divers, c'est pas limité dans l'espace. Le fait divers, c'est la vie. C'est notre histoire. C'est l'histoire qui nous est renvoyée comme ça, brutalement, d'un passé. Alors, ça, le film, la fiction, permet, à un moment donné, sur un instant T, de comprendre ou de raconter un fait divers. Mais il n'est pas ça, le fait divers. Il n'est pas ça. Regardez, Dominici, ça dépasse tout. On ne sait toujours pas, on ne saura peut-être jamais, sûrement jamais, quelle fiction pour raconter ça.
Ce qui est bizarre, c'est l'appellation fait divers pour que des horreurs. Non, mais c'est un fait divers.
C'est vrai.
C'est bizarre de minimiser par rapport aux horreurs. On parle d'enfants tués, on parle de personnes découpées, on parle de meurtres, d'assassinats. C'est un fait divers.
C'est un euphémisme.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est un bel euphémisme.
Et alors, vous parlez de quoi dans l'émission tout à l'heure à 15h aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous allons parler de. Alors, j'ai un petit trou, excusez-moi.
Aujourd'hui, nous sommes lundi.
Oui.
Ouais. Et on va vous aider.
C'est Nagui qui vous parle. Aider.
Vous êtes à France Inter.
Oui, je suis sur France Inter. Oui, tout à fait.
C'est à Madrid ou pas?
Oui, non, Madrid, l'attentat de Madrid, c'est quand même passé. Vous l'avez écouté.
Non, mais je vous demande de quoi vous parlez aujourd'hui.
Oui, justement. Je vous dis, j'ai un trou, je ne sais pas pourquoi, j'ai un trou.
Okay, vous avez un trou entre 15 et 16.
On va trouver, se renseigner.
Et ça aide à porter le fait divers d'avoir un animateur qui a une voix de psychopathe? Alors, comme Fabrice Drouel.
Très bonne question par rapport à Fabrice. Il vous répondra lui-même, je pense.
J'imagine bien.
Dans notre conduite, apparemment, l'émission d'aujourd'hui, c'est sur les attentats de Madrid, mars 2004. Mais peut-être que le sujet a changé depuis.
Non, absolument. Oh. Les attentats de Madrid 2004, c'est aujourd'hui, effectivement.
C'est comme vous voulez. Hein.
Non, Nagui, excusez-moi, j'étais un peu perdu.
De toute façon, j'ai envie de dire, Nagui, peu importe, c'est tellement passionnant que quel que soit le sujet traité...
On a 5 par jour. Non, alors, je reviens sur les attentats de Madrid et le trou s'estompe. Ce qui est intéressant avec l'attentat de Madrid 2004, c'est qu'il renvoie sur tout un temps qui passe par l'Angleterre, la France et on arrive à Barcelone. Voilà. Donc, c'est ça la chance d'affaire sensible, c'est qu'on va parler d'aujourd'hui en se rappelant qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça s'est déjà passé. Madrid, c'était terrible.
Ça se passe.
Et puis, autre chose
d'intéressant. 15h à 16h, Christophe, il va falloir.
Non, mais juste,
pour les infos.
C'est que intéressant aussi, c'est que Madrid, c'était la fin d'Al-Qaïda. Oui. Aujourd'hui, on est sous Daesh. Et les raisons des attentats, les pratiques des attentats ne sont pas les mêmes.
Tout à l'heure, donc, Fabrice Drouel sur Inter, à partir de 15h jusqu'à 16h, avec Christophe Carrère, qui est super prêt. Est super prêt pour l'émission tout à l'heure. Tanguy Pastureau sera là à 12h10. Tanguy, vous étiez à la fête de l'Humain ce week-end?
Et non, mais je vais vous en parler quand même, puisque je suis un escroc. À la fête de l'Humain, il y avait Iggy Pop et Renaud, mais aussi des gens dans leur état normal. Et surtout, il y avait un grand absent, Jean-Luc Mélenchon, qui est parti à la Réunion pour se bronzer. Pour travailler. Donc, camarade Nagui, rendez-vous à 12h10.
Merci, camarade Tanguy. Ça sera après les infos. C'est la bande originale avec Leïla qui nous vous dédie.
Tanguy,
qu'est-ce qui t'arrive? Tanguy Pasturo,
bonjour.
Thomas Wiesel, Daniel Morin, Albert Algout,
bonjour.
Et notre invitée, mademoiselle Judith Pas. Au théâtre du Lucernaire. En fait, il faut expliquer quand même tous ces rires, ces gloussements entre,
c'est Leïla qui devient folle.
Entre Daniel Morin et Leïla. C'est que nous avons sur la table, nous avons chacun un petit bouton du volume de notre casque. Et pendant que, on va le dire. Et pendant que Leïla se mêle comme nous tous d'ailleurs aux applaudissements de pour accueillir notre invité, Daniel Morin met son volume à fond pour lui faire péter les tympans. Et ça fonctionne assez bien d'ailleurs, je dois le dire.
Elle saigne des tympans.
Et c'est le cas depuis 4 ans.
Mais j'avoue que c'est moi qui ai commencé cette petite guerre, c'est moi qui ai cette idée terrible, la première. Donc j'assume maintenant.
Le match au retour.
Oui, j'assume.
Voilà, très bien. Est-ce que nous pouvons parler 2 secondes
oui,
avec Judith?
Oui, bien sûr.
C'est gentil,
sûr.
Merci. Oui, Judith Magre, merci d'être là au milieu de cette bande qui n'écoute absolument pas ce qui se passe. Judith est au théâtre du Lucernaire. C'est l'hypocrisie la plus totale, tu vois.
Oui, t'es
d'accord.
T'es mon match.
Merci. Dans ce thriller de l'esprit, c'est ça la définition qui est donnée à ce texte.
Vous êtes qui a donné cette définition?
Celui qui a fait l'affiche, je pense. Oui, ouais. Thriller de l'esprit, ça ne vous plaît pas?
L'affiche, c'était l'apostrophe, pas l'affiche de Linagui, mais l'affiche du spectacle.
Oui,
sinon, on va croire que GNB...
Non, j'ai pas de fiche. Non, c'est oui, l'affiche voilà. Du théâtre. Oui, oui, voilà. Ce qu'il y a, oui, c'est vous. Enfin, c'est eux. Enfin,
oui.
Ça a l'air de vous plaire. Okay,
si.
Mais
si,
non,
si,
mais
si.
On est.
Ils ont quand même raison.
Ils ont quand même raison. Tout cette pièce-là, ce fait divers, cette manière dont l'interrogatoire est porté par Jean-Claude Le Guay et qui va dans les méandres de l'esprit de cette personne qui est assassinée, c'est ça qui est intéressant, plus que le fait divers en lui-même.
Les méandres, c'est toujours intéressant. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous parle de la pièce? On vient déjà d'en parler pendant une heure.
Ah, mais non, mais.
Vous êtes quatre pieds, Nagui.
Ouais, je voulais qu'on en parle plus parce que ce qui me plaît dans tout ça, c'est ce que l'on croit être la chose la plus intéressante, l'enquête qui est faite. On sait d'ailleurs pas si c'est un journaliste, un juge, un commissaire,
oui.
ce monsieur qui pose des questions.
Moi non plus, je sais pas.
Très ambigu, ce personnage.
Non, mais réellement, je sais pas. Ni moi dans la pièce, ni moi.
Oui, vous posez la question en disant, mais j'ai déjà tout dit au juge, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Et puis alors, vous, au moins, vous n'avez pas demandé. Et alors, vous l'avez mis la tête?
Non,
mais
non.
Parce que
c'est pas tant ça qui est intéressant. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est le rapport entre vous et l'interrogateur.
Oui, et alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais.
Ce jeu de chat et de souris. Il faut donner envie aux personnes d'aller voir cette pièce de théâtre. Donc,
Oui, bah, c'est à vous à le faire, parce que moi, ça...
C'est ton boulot, Nagui.
Moi, ça m'est très difficile
bien
de
sûr, je dis, je comprends.
Mettre en valeur et de mettre la pièce en valeur.
L'important, c'est de savoir que c'est Marguerite Duras qui a tué le petit Grégory. Et ça,
mais non.
Mais attendez, j'ai écouté.
Non, mais alors si, il y a une chose qui peut intéresser les gens, c'est que à partir de choses quand même assez sinistres, ils rient. Enfin, je ne dis pas qu'ils ne vont pas avoir du fait d'eau, il n'y a pas des éclats de rire à toutes les phrases, mais vraiment, vous êtes témoin?
Oui. Il y a quelques... Oui, là, vous avez raison de préciser qu'on n'est pas mort de rire du début jusqu'à la fin de la pièce.
On n'est pas mort de rire, voilà, mais il y a
comédie.
Vraiment des rires.
D'accord.
Parce qu'il y a des
phrases absurdes.
Il y a de l'humour.
Oui, mais...
C'est important.
Et votre personnage qui est quelque part un peu éthéré d'une certaine façon.
Éthéré?
Oui.
Comment ça, éthéré?
Moi, je ne trouve pas que je suis éthéré. Quand je découpe en morceaux quelqu'un...
Non, mais ça, vous l'avez déjà fait.
Vous ne découpez pas toute la journée.
Dans la pièce, non.
Vous ne découpez pas toute la journée, en fait.
Attendez, qui? Moi, Judith Magre? Ah non, je ne découpe pas toute la journée, alors que je suis végétarienne et que j'achète jamais de viande.
Claire Lanne. Le personnage de Claire Lanne semble un peu éthéré dans ses réponses quand tout d'un coup, elle se met à nous parler de la menthe anglaise, par exemple, qu'elle nous dit qu'elle aime en manger, qu'elle trouve ça bien. Elle fait face à une forme de stupéfaction de son interrogateur qui, lui, essaye de comprendre pour elle les raisons du crime, en fait. Donc, ce que je trouve assez drôle dans le décalage, c'est ça, c'est ce côté crime abominable et femme comme ça, qui pense à son jardin, qui se demande quand est-ce qu'elle aura de la visite pour voir des gens. C'est un personnage qui est assez troublant. Et ça peut susciter le rire, du coup, ce décalage.
Écoutez, si je trouble, tant mieux. Non, mais... Vous dites, elle attend de la visite.
Elle attend de parler, elle attend...
Elle voudrait communiquer, elle voudrait parler. Et avec une sourde muette, c'est très difficile de parler. Surtout quand on ne connaît pas le langage des sourds.
La menthe anglaise de Marguerite Duras avec le monstre sacré. Donc, non, qu'est-ce que je fasse ? Marguerite Duras et Judith Magre, les deux sont au théâtre du Lucernaire pour la menthe anglaise. Il est 12h12
oh non,
sur
oh,
Inter. Vas-y, Tanguy Pastureau. Tanguy Pastureau, ce week-end donc à la Courneuve, c'était la fête de l'humain.
Oui, c'était la foire à la merguez et à la tireuse à bière avec des Zic des Cathy qui ont fait le Larzac et pour qui Macron, c'est Satan et Brigitte son suppôt. Mais il y avait aussi des jeunes qui s'en tamponnent du communisme comme Nolwenn Leroy de sa première biture au Chouchen, soir où elle a vraiment entendu le renard et la belette chanter et qui viennent eux pour les concerts parce qu'il y avait du lourd, notamment Iggy Pop, 70 ans donc 40 passés à sniffer de la colle et qui est toujours debout, torse ce poil sous 9 degrés, alors que moi, si j'oublie une fois mon cache-col en août, je chope la crève et je cause comme Daniel Morin avec une voix de cerf en chaleur. Il y avait aussi Renaud, que ses amis appellent Bob l'éponge, parce que tout ce qui est liquide, il absorbe. Tous les 5 ans, on le retrouve à moitié clamsé, puis d'un coup, il se relève, fait un album plus une tournée de 200 dates et il se recouche. Il est increvable. Si Kim Jong-un nous lance une bombe H, de vivant, il restera juste Renaud, qui sortira d'un bâtiment venant de s'écrouler en faisant ta-da-da. Plus Drucker, qui est immortel, pour l'interviewer, et 2-3 scorpions. Alors les politiques de gauche ont répondu présent à l'appel de Pierre Laurent du PCF, le dernier communiste, qui à l'issue de la fête a été remis dans sa vitrine au Muséum d'Histoire Naturelle dans la section espèces disparues à côté du dodo. Alors est venu Benoît Hamon, le tueur du PS, qui a fait au socialisme ce qu'a fait Jack l'éventreur au secteur de la prostitution. Il a présenté à la foule ivre son nouveau parti, intitulé Mouvement du 1er juillet, parce qu'il l'a lancé le 1er juillet, c'est un créatif. Ainsi postule chez Publicis, les types lui feront une haie d'honneur avec Flonflon et Kirpèche dès qu'il aura passé l'accueil. Sont aussi venus les Insoumis, dont Alexis Corbière, responsable de l'office de tourisme du Venezuela, mais manquait Mélenchon, le Mao Tse-Tung marseillais, qui était à La Réunion. Il s'est dit ras-le-bol de la flotte du pain mouillé et des cocos au téton flasque. Moi, je veux danser le maloya au soleil, la cervelle bouffée par le rhum arrangé. À moi les MST.
Alors justement, cette absence a été critiquée par le premier secrétaire du Parti communiste, évidemment.
Mais oui, parce que Mélenchon, c'est la seule star de gauche. C'est comme si pour la reformation de téléphone, Aubert Bertignac et Kolinka avaient dit non et que Corinne s'était retrouvée seule à Bercy avec juste un triangle. La fête de l'UMA 2017, c'était Pierre Laurent, Hamon et Marie-Georges Buffet qui matent le concert d'Iggy Pop en se demandant s'il va exhiber son sexe en fin de vie, comme à la grande époque. Bah ouais. Si la loose se dansait, là, on aurait eu une grande gigue. Pierre Laurent, dans un discours, a donc dit « Il aurait mieux valu que tout le monde soit là. » Alors tout le monde sait Mélenchon. Il vit son absence aussi mal qu'un amoureux de la musique baroque le succès de Maître Gims. À La Réunion, Mélenchon, qui suit l'actu, surtout quand ça parle de lui, parce qu'il a l'ego gros comme une pastèque transgénique, lui répond « Je peux pas être partout hein, ». Il y a 6 mois, il squattait en même temps 17 salles avec son hologramme, mais là, fini, il est repassé à Windows 2.0. C'est comme si J.J. Abrams, réalisateur de Star Wars, disait « Terminez les effets spéciaux, l'épisode 8, ce sera Chewbacca qui discute dans une brasserie avec ses potes, comme dans un film de Sautet ». Alors en fait, Mélenchon s'en fiche du PC, il est 20 fois plus puissant. Il est dans la position de Nagui quand le boss de TF1 l'appelle et qui lui répond « Mon pote, je suis leader ménagère en access tous les soirs et en radio, j'ai Pastureau. Alors ton contrat, tu le proposes à Sophie Favier et tu m'oublies. » Alors la fête de l'UMA sans Mélenchon, c'était triste, comme dans une soirée haute où il n'y aurait eu que des eunuques. Benoît Hamon a filé 500 euros à Pierre Laurent pour qu'il rejoigne son mouvement du 1er juillet. Laurent a dit « C'est pas assez », donc Hamon lui a donné sa voiture, son appartement et ses deux enfants. Laurent a dit « Bon, d'accord, mais ne dis à personne que celui qui a adhéré, c'est moi. » Quant à Mélenchon, il est au soleil, il va revenir bronzé comme une vieille cagole bolivarienne. Et il a bien raison.
Merci, Tanguy Pastureau.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Bravo. Tout ce qui se passe autour de l'actualité, d'ailleurs, ça vous fait quoi, Judith Mag? Est-ce que vous vous intéressez à l'actualité? Est-ce que vous lisez
J'écoute les nouvelles à la télévision, j'achète les journaux. Pas beaucoup les quotidiens, plutôt les hebdos, et je les lis de A à Z. Ah. Alors je commence par lire les trucs dans les choses qui m'intéressent plus directement. le cinéma. Puis alors après, je passe au
à la politique.
À la politique. Alors là, je dois dire que c'est, à l'économie, ça n'en parlons pas. J'y comprends rien, j'y connais rien. Mais il y a rien à faire. Il faut que je lise en me disant peut-être que tout à coup, je vais découvrir des trucs, je vais m'instruire. Bon, le résultat est nul, mais enfin, quand même, je lis.
Avez-vous le sentiment d'être une artiste engagée ? Est-ce que
pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais moi, je suis pour que tous les gens soient bien et puissent bouffer, puissent dormir. Je trouve que la vie en France, c'est vraiment mieux que dans la plupart des pays du monde, à part que même en France, il y a des gens qui sont très malheureux. Moi, j'ai toujours des sous dans ma poche pour donner à des malheureux qui sont obligés après de redonner tout ça à des racketteurs, parce que c'est horrible ce qui se passe. Ils sont dans la rue, mais en réalité, ils ne gardent même pas les sous. Mais bon, tant pis.
Oui, c'est vrai qu'il faut rappeler que malheureusement, les SDF se font tabasser, voler l'argent qu'il peut y avoir.
Ils
ne
gardent pas leur argent, c'est absolument épouvantable. Mais bon...
Mais de signer par exemple des pétitions, de mettre votre nom en bas d'une liste pour telle ou telle cause, ça vous est déjà arrivé ?
Ça m'est arrivé pour l'histoire des bonnes femmes qui avortent. Enfin, oui, parce que c'est Simone de Beauvoir, que je connaissais bien à cette époque-là, qui m'avait demandé de signer.
Bon, les 343.
Ah bon ? Je ne me rappelle pas.
Ça s'appelait, Non, ça c'était le surnom qui avait été donné.
Derrière,
mais c'était...
Tu peux l'appeler Nagui.
Mais c'était simplement le...
En 43,
les 343.
Ah, il y avait 300... Non, parce qu'en 43, j'ai dit...
Non, 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 pas en 43.
Les 343, ben oui.
Il y avait 343... Une personne, femme, qui avait signé qu'elles avaient eu, elles aussi...
Qui avait reconnu avoir eu recours à l'avortement.
À l'avortement. Et,
ça te fait rire.
Et donc, elle se disait hors la loi, puisque à l'époque, c'était hors la loi de le faire. Oui. Et Catherine Deneuve en faisait partie.
Non, mais il y avait un monde 343, c'est pas mal quand même.
C'est énorme, ouais, ça avait été publié dans le Nouvel Obs. Et c'est vrai qu'ensuite, on avait qualifié cette liste-là de 343, entre guillemets, salope, mais c'était pas ainsi.
C'était
en tout cas,
pas l'intitulé original.
Mais ça peut devenir un terme tendre, salope.
Je suis totalement d'accord avec vous.
Mais c'était de l'autodérision.
Exactement. Exactement.
C'est bien dit.
Mais en même temps, ça fait progresser. Donc c'est
l'engagement.
Faire avancer la société, ça fait partie.
Oui,
de...
enfin là, j'étais tout à fait d'accord pour signer ce truc-là. Et puis voilà. Depuis, on ne m'a jamais demandé d'en signer. Bah alors j'en ai pas signé, si on ne me demande pas, je signe pas.
Très bien, non, mais je voulais pas vous embêter non plus. Voici le rêve de Daniel Morin sur Inter.
Attention, attention.
Quoi ?
Oui, attention, amis retraités précaires, à partir du 1er octobre, votre vie va changer et pourtant, il faut raison garder. Pourquoi tant de panique ? Pourquoi cette alarme ? Eh bien parce que le gouvernement a décidé d'augmenter le minimum vieillesse de 0,8%. Alors oui, je sais, ça donne envie de faire le con, ça donne envie de devenir dingo, de faire des projets de maboule, ça donne envie de claquer son pognon en veux-tu en voilà, ça donne envie de mener une vie d'animateur télé, mais là, attention, je dis Achtung. Oui, je vous en conjure, ne commettez pas d'imprudence, n'allez pas bouffer d'un seul coup cette somme incroyable qui va vous tomber du ciel, pensez à consommer de façon raisonnable, c'est quelques 5,50 €. Ne les flambez pas d'un coup, voilà, pensez en mettre une partie de côté. Cette info qui est tombée m'a littéralement bouleversé à un point que j'en ai fait des rêves. J'étais dans une maison de retraite et la nouvelle de la revalorisation tombe. Folie dans les couloirs de l'hospice, tout le monde se voit vivre une vie de millionnaire et que Barnabé, 109 ans, réserve déjà 2 nuits au Ritz pour séduire Madeleine, 113 ans et que Marie-Odile, 101 ans, une gamine, file en nuisette chez Cartier pour s'acheter un diamant de 9 carats et que Ferdinand, 147 ans, sort de son coma pour lancer son fameux cri de satisfaction avant de replonger dans le confort douillet de son coma feutré. Cette atmosphère de liesse populaire m'enchantait et me perturbait à la fois. Pour y voir plus clair, j'ai été voir un de mes maîtres à penser. Bonjour, maître Ganache.
Garde à vous ! Bravo ! Qu'est-ce que tu veux ?
Maître Ganache, j'ai rêvé que j'étais en maison de retraite et qu'à l'annonce de l'augmentation des petites pensions, tout le monde, moi y compris, on devenait dingue et qu'on faisait des projets de fou en anticipant le pacte l'avenir.
Et ça va représenter combien, cette augmentation ?
En gros, 5,50.
Waouh ! Sacrée somme !
Je sais, d'où l'excitation collective.
Quand ce genre de choses arrive, il faut être préparé. 5,50 € sur un an, ça va encore. Tu te fais plaisir, tu te fais des cadeaux, à tes proches, tu t'éclates, ça va, ça se gère. mais 5,50 € par mois. C'est une avalanche de fric pas facile à gérer. C'est un peu comme gagner l'euro million. Du jour au lendemain, ta vie change.
Maître, vous pensez qu'il faudrait mettre en place pour les retraités qui vont bénéficier de cette augmentation une cellule d'accompagnement psychologique comme ils le font à la Française des Jeux pour aider les gagnants ?
Ah, ça me paraît indispensable. Prenons un exemple simple.
Oui, bah simple alors, parce qu'il y en a Guy.
Avec 5,50 €.
Oui.
Si tu deviens fou et que tu dépenses tout, oui, tu perds les pédales.
Non, genre quoi?
Genre tu claques tout comme un con en t'achetant 2 paquets de danettes et 2 paquets de pépito.
Waouh, le malade.
Eh bien, si tu bouffes tout d'un seul coup, ouais. C'est crise de foie, dysenterie, overdose de glucose, accélération cardiaque et infarctus.
Oui, oui, mais tu te régales.
Oui, tu te régales. Mais tu joues avec le feu, Morin. Moi, je dis qu'il faut être raisonnable. Avec 5,50 €, tu te fais plaisir. Avec une boîte de cachou à 1,80 € ou un paquet de pastilles Vichy à 1,50 €. Et le reste, tu fais l'écureuil. Tu le places sur un livret A ou une assurance vie.
Vous avez raison, Maître Ganache. Il faut raison garder.
Mais oui, oui. Sinon, ça devient n'importe quoi. Regarde des gars comme Nagui. Au Balkany.
Ah, c'est les mêmes. Hey,
c'est des types qui dépensent des 10,
quoi,
des 20,
hein,
voire des 30 euros par mois,
les dingos,
en babioles, cocaïne et Viagra. Et au bout du compte, est-ce qu'ils sont plus heureux?
Non. Non, vous avez raison, ils sont misérables.
Leurs poches sont pleines, mais leurs regards sont vides.
Oh, c'est beau ce que vous dites. Merci, maître Ganache. Voilà,
merci.
Les amis, alors rêver de dépenser des fortunes, c'est cool, mais le bonheur... n'est pas là, le bonheur, avec 5,50 € qui vous tombe dessus, comme ça, sans prévenir. Non, le bonheur, il est dans le partage, la solidarité, l'entraide, la bienveillance. Il est dans les petits gestes du quotidien qui vous rapprochent les uns des autres, sans forme d'intérêt quelconque, mais avec la seule envie d'apporter une aide. Transmettre, c'est aimer, aimer, c'est donner. Et donner, c'est aussi recevoir. Voilà ce que c'est le vrai bonheur et l'épanouissement. Non, je déconne, le bonheur, c'est le pognon. Merci, à demain.
Merci,
Laurent. La bande originale avec Nagui.
Judith, je me demandais, quand vous parliez tout à l'heure des gens que vous voyez dans la rue, récemment, vous aviez déclaré dans Paris Match que vous étiez obligé de continuer à travailler pour gagner votre vie.
Ben oui, comme beaucoup de gens.
Oui, mais c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que vous touchiez, je ne sais pas, une pension, quelque chose. De...
Non.
Comment ça marche ?
5,50 € de plus,
ouais,
par mois.
Oui, mais c'est vrai que quand on entend ça, c'est terrible, parce qu'on parle de précarisation terrible.
Vous n'avez pas économisé dans votre vie ou gagné assez, en tout cas, pour...
Non. J'ai jamais... jamais un homme ne m'a entretenu, ce que je regrette beaucoup.
Parce que il est encore temps.
Ça aurait été formidable. Ben s'il avait été beau, charmant, intelligent, etc., ça aurait été très bien.
C'est une licorne, ça s'appelle une licorne.
J'aurais été beau, des très intelligents, des charmants et tout, mais ils ne m'ont pas entretenu.
Oui, oui.
Mais bon, tant pis, hein. Je pleure pas.
Vous avez été donc plus cigale que fourmi, quoi. C'est un tempérament.
Quand j'ai des sous, je le dépense. Quand j'en ai pas, je n'en dépense pas. C'est comme tout le monde.
Et pour l'avenir, vous ne vouliez pas dire tout à l'heure la pièce, mais je crois que j'ai trouvé.
Non.
Alors on ne le dit pas.
Non.
Vous êtes sûr?
Non, oui, je suis superstitieuse.
Ah d'accord. Alors mais on
peut-être que vous ne parlez même pas de la même chose, non?
C'est vrai, peut-être.
Non, mais si on le mentionne et que c'est la même chose.
Et oui, alors.
Si t'as pas est-ce que tu as un théâtre, au moins?
Oui, j'ai un théâtre.
Ah. Non.
Alors,
non,
mais le théâtre,
non,
dis pas.
Non.
Judith, croise les doigts. Hein, faut,
ok, d'accord. En plus, ça a l'air très beau, hein, Judith.
Ah, mais c'est formidable, ça va être formidable. Je reviens. Ça, alors là.
C'est quoi?
Au mois de mai.
Ah non, pas du tout.
Alors
déjà, c'est une fausse information.
Vous parlez pas de la même chose.
Ah, non, on parle peut-être pas de la même chose.
Bon, écoutez, non, parlez pas.
Alors,
non,
je dis rien.
Les trucs dans le futur, d'abord, tout le monde sera peut-être mort, moi y compris.
Moi, non,
mais c'est quel futur pour vous? C'est janvier?
Non, c'est...
Non, dites rien.
Non, j'ai dit rien.
Mais non, j'ai rien. Ça, vous l'avez dit.
Non.
Si, vous avez dit.
Où est la
non,
tête?
Non, c'est pas janvier.
Dites rien, Judith.
Non, mais c'est pas janvier.
Voilà. C'est pas janvier. Où est la tête? Et si je demande où est la tête, ça, j'ai une réponse ou pas? Non, toujours
et la
pas,
tête,
non.
Et la
non,
tête.
Non, ça non plus. Ok, on dira rien.
Non, on dira rien.
Et vous n'avez toujours pas contacté de réalisateurs, de metteurs en scène en leur disant « j'aimerais travailler avec vous ».
Dites rien.
Ça m'est arrivé. Écoutez, ça m'est arrivé une fois, parce qu'il y a une amie qui m'avait dit « tu sais, moi je connais bien un tel, il est là, c'était dans un maison, je sais que tu aimes bien ces films, vas-y, dis-lui que tu aimerais bien travailler avec lui ».
Ça peut ne faire que plaisir à la personne d'entendre ça.
Absolument pas.
Bah
alors, je me suis
celle
levée.
Celle qui entend.
Je me suis levée, mais la mort dans l'âme, en me disant, je suis sûre que j'ai fait une connerie, j'ai pas envie de le faire. J'y suis allée, j'ai dit, j'aimerais bien travailler avec vous. On s'est jamais revus.
Oui, en fait, dit sur ce ton-là, évidemment.
Non, mais je ne l'ai pas dit comme ça. À l'intérieur, d'accord. C'était comme ça.
Vous êtes forcé.
D'une façon plus... Mais le cœur n'y était pas. Je sentais que je faisais une connerie.
Il ne faut pas y aller, ouais. Dans ces cas-là.
Ben voilà, ça n'a pas marché.
Très bien. Au Théâtre du Lucernaire, L'Amante anglaise, Marguerite Duras, avec Jacques Frantz et Jean-Claude Le Guay, mais surtout Judith Magre, qui est celle qui a commis cette horreur, cet assassinat, ce découpage en rondelles. Et toute cette espèce d'investigation, d'enquête, devient évidemment un échange très psychologique entre l'interrogateur et vous, pour essayer de comprendre, mieux qu'une enquête d'ailleurs, pourquoi elle a fait ce geste. Et ce que l'on comprend, c'est qu'elle veut surtout avoir une existence, avoir de l'intérêt à son existence, et qu'on lui adresse la parole, et qu'on lui parle, et que tout soit dans l'échange. Cette pièce est au Théâtre du Lucernaire, et ce jusqu'à la mi-novembre. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour nos auditeurs pacifistes et humanistes qui ont été très très choqués par l'ultra-violence de Judith Magre. En même temps, qui n'a jamais eu envie de décapiter sa cousine ou même un petit collègue? Désolé pour Judith Magre, il a découvert ce matin que Nagui s'était opposé très très régulièrement à sa venue dans l'émission. Il est comme ça l'Égyptien, il a ses têtes, à savoir qu'il déteste aussi Depardieu, Macron, Christophe Maé, l'abbé Pierre et surtout les gosses. Désolé pour Leïla qui a été tout simplement sali par l'immonde Suisse Thomas Wiesel. Franchement, en 3 ans d'émission, moi je ne me serais jamais permis ça. Là, je suis choqué.
Sinon honte. Merci mille fois, Judith, d'avoir pris le temps de venir à ce micro.
Oh, ben, ça m'a fait drôlement plaisir.
Et bravo, vous êtes vraiment formidable sur scène.
Quand vous saurez quelle pièce je vais jouer, j'espère que je pourrai revenir.
Sûrement pas.
Vous voyez que vous êtes vraiment mauvais.
Il est odieux.
Mais dans votre bouche, ça prend une autre dimension, ça.
Calmez-vous, Nagui.
Demain
qui?
Fais gaffe, parce que Louise Bourgoin.
Louise Bourgoin. Demain avec Stéphane De Groot. Et en live, il y aura Da Silva.